Je suis cette laisse en vérité. Pendant des semaines, je suis cette laisse. Pendant des semaines, j'écris au bord. Je commence au mois de mars. Je recommence. 39 fois, j'essaie d'écrire au bord. 39 fois, je m'arrête en route. Je suis cette laisse. Je suis au bout de cette laisse. Je suis celle qui tient la laisse. Je suis celle qui se tait et qui tient la laisse. J'ai punaisé la photographie sur le mur, en face de la table où j'écris. Je n'écris plus, je regarde. Celle qui tient la laisse m'appelle. Sans me regarder, elle me tient captive. Regarde-moi. Je suis cette femme qui regarde cette femme qui tient en laisse un corps. Un corps nu. Je crois que le corps est nu. Je suis cette femme dans la contemplation de cette femme qui tient un corps en laisse. Un homme nu, je crois que c'est un homme.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
La voix, rauque, lente, passant de la douceur rêveuse au cri, c'est celle de Cécile Brune, actrice brûlante. Elle est sur la scène du Théâtre National de Strasbourg, enserrée dans une sorte de boîte grise, minérale, qu'elle arpente comme on le fait dans une prison, prison réelle, prison mentale. La mise en scène est celle de Stanislas Nordet, lui qui cherche toujours à monter des textes insolubles, comme il le dit. Avec Au bord, Grand Prix de la littérature dramatique en 2011, il a trouvé un défi à sa hauteur. Ici, c'est donc une femme qui soliloque. Écrivaine, elle reste bloquée, à bout de souffle, à bout de mots, devant une photo qu'elle a punaisée sur le mur en face d'elle. Celle que le monde entier a découvert à la une du Washington Post en mai 2004, mettant en scène une soldate américaine tenant en laisse un prisonnier irakien couché par terre dans la prison d'Abu Ghraib. Qu'est-ce qui arrête ainsi celle qui cherche à écrire, par-delà la simple répulsion du spectacle de la torture, et quel sentiment plus trouble, quel souvenir difficile cette photo suscite en elle ? Découvrir l'écriture de Claudine Galéa, d'abord dans ses pièces, une quinzaine à ce jour, mais aussi dans ses brefs récits, romans pour adultes ou pour enfants, c'est comme se risquer au plus près d'une coulée de lave en fusion. Dans le dernier numéro de l'excellente revue Parage, qui lui est entièrement consacrée, Frédéric Vossier, philosophe et dramaturge, écrit d'ailleurs que « l'approcher, c'est risquer de se brûler ». Mais ce qui saisit celui ou celle qui s'immerge dans cette langue âpre, précise, violente et charnelle, qui sans cesse revient sur elle-même pour préciser, fouiller plus loin, dénicher la vérité du sentiment, sans embellir, au risque de se mettre à nu, muscles, os, sang, entrailles, oui, ce qui nous saisit, c'est la fascination devant une intelligence vivante qui crée à partir d'une histoire intime, la sienne, un récit qui nous concerne évidemment. Claudine Galéa est cette année artiste associée au TNS et son dernier texte, Un sentiment de vie, tout juste publié aux éditions Espace 34, sera également mis en scène au Théâtre de la Bastille à la rentrée prochaine. Bonsoir Claudine Galéa.
Bonsoir Kathleen Evin.
Merci d'être là, c'est un plaisir de parler avec vous de ces textes qu'on a envie de découvrir et d'approfondir avec vos propres mots. Ce texte Au bord, il a déjà un certain temps et pourtant il continue à susciter chez les metteurs en scène, chez ceux qui aiment lire aussi du théâtre, l'incertitude, la déstabilisation, le questionnement, c'est un texte avec lequel vous avez commencé par vivre, on l'entend dans la pièce, 15 mois avant 40 versions. Vous avez mis du temps avant d'accepter même qu'il soit publié. Est-ce que ça veut dire que c'est un texte qui a marqué dans votre travail d'écriture dramatique ou d'écriture tout simplement une sorte de basculement. Il y a eu un avant, un après. Avec Au bord, vous avez atteint l'écriture que vous cherchiez à atteindre depuis longtemps.
Ce n'est pas prémédité, mais de fait, oui, il y a eu un avant et un après Au bord. Il se trouve que j'avais suspendu l'écriture de théâtre et que Au bord s'est imposé comme un texte dont je ne savais pas quelle était la destination première. Je l'ai écrit parce qu'il était nécessaire pour moi de l'écrire. Et il se trouve que à la fin de l'écriture, j'étais invitée par Hubert Collat au festival actoral et je l'ai lu. Je l'ai lu donc devant du public et là j'ai compris que ce texte prenait sa dimension entière, adressée in vivo à d'autres êtres humains en face de moi.
Mais on retient quand on lit ce texte et qui commence tout de suite par « Je suis au bord », que c'est quelque chose de très intime, et d'ailleurs, plus on avance dans le texte, plus vous vous mettez à nu, et en même temps, ça part de quelque chose qui nous a tous, qui a concerné le monde entier. Oui. Donc vous êtes parti d'une expérience que tout le monde avait l'impression de pouvoir partager à quelque chose de beaucoup plus intime, parce que vous ne vous êtes pas contenté de cette position que nous avions tous à l'époque, c'est horrible, mais comment peut-on faire ça? En plus, une femme. Et en fait, vous nous faites comprendre rapidement dans ce texte que, au fond, c'est pas ça le problème, parce que ça, c'est la position que tout le monde peut avoir, mais qu'il faut comprendre pourquoi cette photo nous arrête.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, cette image m'a arrêtée, comme tant d'autres personnes, simplement, je n'ai pas voulu la laisser passer, si vous voulez. C'est-à-dire que, déjà, quand quelque chose m'arrête, en général, si ça m'arrête longtemps, c'est que ça interroge quelque chose en moi. Et que, donc, a priori, je vais devoir répondre à ce que ça interroge. Ça ne veut pas dire apporter des réponses, mais ça veut dire aller là où l'interrogation m'emmène. J'ai mis du temps pour écrire ce texte, parce que c'était une image extrêmement délicate. Pour écrire, enfin, c'est une image inadmissible, c'est une image où il y a une forme d'innommable. Évidemment, le fait que ce soit une femme qui tenait la laisse, je pense que ça m'a d'autant plus arrêtée, moi, en tant que femme. Ensuite, je voyais bien comment ces images horribles allaient être remplacées par d'autres images, et encore, ce n'était que le début du moment où on était pris dans le flux des images sur les réseaux sociaux. Mais de fait, je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas écrire sur l'image. Je ne pouvais pas écrire hors de l'image. Donc comment aller dans cette image, moi qui en étais très très loin en réalité, et politiquement, et spatialement, et je dirais... civiquement. Donc ça a pris ce temps-là pour que je sente, on va dire, que je sente que je ne pouvais pas écrire à partir de cette image sans m'exposer autant que ce que l'image exposait l'innommable. Et c'est là que j'ai pu commencer, au bout d'un certain temps. Et grâce aussi à cette phrase de Dominique Forcade, « Je suis cette laisse en vérité », qui tout d'un coup a ouvert c'est l'incipit, hein, le fameux incipit, qui fait que tout d'un coup, au bout de tant de mois où j'avais essayé en vain, cet incipit a ouvert la parole et a ouvert la place du jeu, qui était évidemment une place un peu limite à tenir.
Comme quoi, finalement, la lecture des... Alors, en l'occurrence, Dominique Forcade, du poète, mais la lecture des autres qui partagent une émotion, une interrogation, c'est quelque chose qui peut déclencher aussi l'écriture. Mais au-delà de ça, il vous a fallu trouver la forme, et ça a été très compliqué de trouver la forme.
Disons que ça a été très long. Quand c'est arrivé rapidement. Je vous dis... La question, c'était d'arriver à essayer de dénuder absolument tout ce qui enveloppait l'image, donc aussi tous nos a priori, toutes nos peurs, toutes nos pudeurs, qui sont souvent des fausses pudeurs. Et cette image n'admet aucune fausse pudeur, n'admet aucune tricherie, n'admet aucun respect d'une certaine façon. Donc il fallait dénuder, hein, déshabiller proprement parler tout ça. Et donc pour moi, trouver une écriture qui enlève les couches, hein, qui, comme on éviscère un animal, si vous voulez, comme on enlève la peau, quoi. Cette chose qui est terrifiante à l'image de l'image, hein, et qui en même temps est nécessaire pour que on puisse dialoguer avec l'image.
Alors évidemment, ce que ça convoque chez nous, spectateurs de cette image insupportable, c'est d'autres images anciennes, c'est des images et des mots qu'on a entendus. Lorsqu'on parle des camps de concentration, on pense à Robert Antelme, bien entendu. On écoute un autre extrait de ce texte, Au bord, signé par vous, Claudine Galéa.
Regarde-moi, dit la fille, je ne veux pas que tu sois. C'est ça que dit la laisse. C'est ça que dit la torture. La nudité, ce n'est rien. La peau et les os, ce n'est rien. Les insultes, ce n'est rien. La souffrance, ce n'est rien. La destruction, ce n'est rien. La négation, ce n'est rien. Toujours trop, encore rien. L'humiliation n'est jamais assez humiliante. La nudité n'est jamais assez nue. Je voulais parler de l'innommable, de la terreur, du meurtre. Je voulais parler du retournement, du Janus, du sourire et des dents. Qu'est-ce qu'une photographie peut m'apporter comme preuve? Comme preuve de quoi? Qu'est-ce qu'une photographie interdit désormais de faire, de croire, d'imaginer, de rêver, de désirer? Qu'est-ce qu'une photographie interdit de penser?
Claudine Galéa, on entendait Cécile Brune dans ce moment de votre texte Au bord, où il y a cette phrase dans l'espèce humaine de Robert Antelme, qui en fait, en face d'un SS, se rend compte que ce que dit le SS, c'est « je ne veux pas que tu sois ». Et cette photographie, au fond, c'est l'éternelle remémoration de l'avilissement d'un homme par un autre homme, de la négation même de l'être. C'est effectivement quelque chose que, comme le soleil, on ne peut pas regarder en face.
Non, on est brûlé. C'est-à-dire que nous, on ne regarde pas en face, mais on est regardé en face. Mmh. Merci d'avoir cité Robert Antelme, de l'avoir... Parce que j'avais lu cette phrase 20 ans avant d'écrire ce texte. J'avais lu L'espèce humaine et ça avait été un vrai choc, un vrai bouleversement pour moi. Un bouleversement dans la façon dont Nommé, chez lui, avait tenu lieu de survie. Et pour moi, comme écrivain, c'était quelque chose d'extraordinaire de lire ce livre. Vraiment, comme être humain déjà, mais aussi comme écrivain.
Trouver les mots.
Dire, il n'y a pas d'impensable, il n'y a pas d'innommable. Ça ne veut pas dire qu'on va solutionner, qu'on va pouvoir éliminer le mal, mais c'est une recherche permanente, c'est de comprendre comment l'être humain fonctionne, comment on est fabriqué. Et on est fabriqué de deux faces, on est double profondément, on a cette possibilité du meurtre en nous et on a cette possibilité d'être la victime comme d'être le bourreau, quoi. Ça, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps et je pense que d'écrire à partir de cette image m'a permis d'aller explorer un peu plus avant, on va dire, cette question-là qui reste de toute façon un champ d'exploration immense et vertigineux, hein. Mais bon, quand on lit Robert Antelme, on se dit que il est de notre dignité d'humain et de notre presque, je dirais, pour moi, de mon devoir d'écrivain, enfin de quelqu'un qui travaille avec la langue, d'essayer de mettre des mots là où il n'y en a pas, parce que le pire est de ne pas nommer, et justement le pire est de passer et de laisser sans mots et de laisser sans regard, parce que les mots, ça permet de regarder.
Il y avait aussi, et ça vous le dites, Claudine Galéa, dans tous ces textes que vous avez d'abord essayé d'écrire avant d'arriver à la version finale, il y avait aussi l'écueil qu'il fallait éviter, qui était de se focaliser sur la photo, de parler de la photo, de ce qu'elle nous jette à la face, et que, comme vous le dites, comme elle nous regarde, elle mérite la vérité, notre vérité. On va écouter évidemment celui qui parle si bien de la photo, Georges Didier Huberman. Comment éviter cela, justement ?
Il faut revenir à des penseurs du type Benjamin, Brecht, Molinage, par exemple, qui parlaient d'analphabétisme des images. Cette façon dont on regarde les images, en quelque sorte en les bloquant sur des stéréotypes de langage. Mmh. Vous voyez une image, et comme vous avez déjà le mot qui va avec, ça vous évite et de modifier votre langage, donc votre pensée, et de modifier votre regard. Donc vous ne la voyez pas, cette image. Donc ce qu'il faut faire, c'est savoir lire avec les images, lire par les images, bien sûr. C'est ça l'enjeu. Le début du livre de Robert Antelme est absolument exemplaire à cet égard, parce que il commence pratiquement, si je me souviens bien, ce livre, avec le mot « inimaginable ». Et quelques lignes plus loin, il recommence en disant en fait, il faut l'imaginer. Mmh. Hein, on retrouve les mêmes choses chez Beckett, hein, dans l'innommable. C'est innommable, c'est bien pour ça qu'il faut le nommer. Moi, j'ai beaucoup cette expérience devant les images qui me touche, hein, qui est une sorte de disparition soudaine de mes moyens linguistiques. Je suis souvent assez muet devant une image que je rencontre. Alors, soit je continue d'être muet et je deviens un dévot de cette image, ça devient une icône, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Soit je décide de l'enfermer immédiatement dans un concept, ce qui ne m'intéresse pas du tout, soit je prends du temps, je remonte mon propre langage, mon propre regard, et je suis obligé en fait de réinventer mon langage, donc ma pensée, grâce, à travers à cette expérience de l'image. C'est ça l'enjeu.
Claudine Galéa, c'est fascinant, parce qu'en écoutant cet archive de Georges Didier Huberman, j'ai eu l'impression qu'il parlait pour vous. C'est-à-dire que quand il dit « retrouver un langage », c'est exactement ce travail incroyable que vous avez fait pour trouver les mots, mais c'est surtout quand il dit il ne faut pas écrire sur l'image, il faut écrire avec l'image. Et comment écrire avec l'image? C'est en allant en soi pour sortir la vérité que cette image suscite. C'est en fait ce travail de dévoilement que vous avez été contrainte de faire pour être à la hauteur de l'enjeu.
Alors, bon, je ne connaissais pas cet archive de Didier Huberman qui m'a absolument passionnée. Quand j'ai écrit Au bord, je ne connaissais pas encore Didier Huberman. Je l'ai lu vers la fin de l'écriture et ça a été une découverte. Ensuite, j'ai lu tous ses livres. Quand il dit il faut remonter le langage, moi je dirais qu'il faut remonter le langage et remonter le corps. Parce que ça commence là, ça commence dans l'expérience humaine. Et sans doute, je peux dire que la chance, aujourd'hui je peux dire ça, je ne l'aurais certainement pas dit à l'époque de l'écriture, hein, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir vécu des expériences physiques violentes, on va dire, limites, qui vous mettent au bord du gouffre. Et ça c'est physique, et l'écriture c'est proprement physique, c'est-à-dire que c'est l'endroit où le corps... C'est le corps qui va trouver la langue, la langue juste. Je dirais pas la langue vraie, parce que la vérité, elle n'est pas... On peut pas parler de vérité par rapport à une image comme ça. On peut parler que de sa vérité, mais au moins d'une justesse de rapport entre ce que moi, là où j'en étais comme écrivain et comme femme, comme personne, et la venue de cette image sous mes yeux qui interrogeait le néant, quoi. Voilà. Et je pense qu'on ne peut... Enfin, c'est tellement facile de parler d'inimaginable ou d'innommable. C'est tellement aisé de se dire « Oh ben, on regarde ailleurs ». Ça, je peux pas. Je ne peux pas. Sinon, je n'écris pas. Enfin, en tout cas, pour moi, écrire me permet de ne pas regarder ailleurs, plus exactement. Voilà. C'est cette chance que j'ai là.
Et puis, il y a aussi ce moment, Claudine Galéa, où... En fait, la mémoire, alors vous parlez du corps, mais c'est presque la mémoire du corps qui arrive en face de ces corps qui s'exposent devant vous, celui de l'homme à terre, oui. Celui de la fille mis en scène comme une photo de vacances, vous dites. Et en fait, votre corps vous rappelle des expériences limites que vous avez subies, des chagrins d'amour, mais aussi le chagrin d'une mère pas aimable, comme vous le dites dans le texte à un moment, et c'est une date tout d'un coup qui déclenche aussi la mise en forme du texte, c'est l'anniversaire de la mort de votre mère.
Oui, il y a comme ça des, on va dire qu'il y a comme ça des, tout d'un coup des endroits qui s'entrechoquent, et de là une forme de lumière jaillit, quoi. Et ensuite il faut trouver, c'est l'aventure de la langue, ensuite c'est l'aventure, enfin moi qui me passionne, c'est-à-dire comment trouver les mots, le verbe, le paragraphe, la ponctuation, la non-ponctuation, mais en tout cas comment mettre à jour une langue qui va rendre compte du choc à la fois politique et intime qu'on a reçu, et qui va du coup peut-être permettre d'appréhender un peu justement l'innommable ou l'irreprésentable qui nous est proposé, et qui en l'occurrence était cette photo prise dans la prison d'Abu Ghraib, prise avec cette désinvolture hallucinante, qui était que effectivement elle aurait pu prendre cette photo, une autre photo de la même manière, dans la même posture, sur une plage. Et là, si vous voulez, d'un coup, mais comment on est nous les êtres humains, comment on est capable tout d'un coup de choses qui sont comment dire, on est capable de tout en fait. Donc on peut tout écrire. Il faut tout écrire parce qu'on est capable de tout. Et il ne faut en avoir ni peur ni honte. Il faut simplement se dire bon, alors si on est capable de tout, on peut. Il faut tout dire. Il faut tout oser dire. Au moins, jusqu'où on peut aller quand on écrit, quoi.
Alors, lorsque la forme s'est imposée à vous, il y a tout d'un coup un changement de rythme dans ce texte. Toute la première partie est plus accidentée, elle reste fixée sur cette photo. Et tout d'un coup, à partir du moment où le 21 août, cette date débloque, tout d'un coup, ça devient presque un poème. En fait, moi, la question que je me pose, c'est quand j'ai lu ce texte, je l'ai lu, en fait, après l'avoir vu en scène, et je me suis rendu compte que ça aurait pu être publié sous le titre poésie. Ça pourrait être un poème, en fait. C'est pas forcément une forme dramatique, ça a inspiré Stanislas Nordet au TNS. Mais même vous, quand vous l'avez écrit, au fond, vous ne saviez pas à quoi il était destiné, ce texte.
Mais merci de dire ça, parce que pour moi, déjà, écrire pour la scène, c'est un geste et un acte de littérature, tout autant qu'écrire des romans. Et la poésie est quelque chose qui... Alors, je ne suis pas poète, mais je me nourris énormément de poésie. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de littérairement, pour moi... Comment dire, ce n'est pas un hasard si c'est Dominique Fourcade qui a fait écho, parce que Dominique Fourcade est un poète que je lis beaucoup et depuis longtemps. Mais si je pense à Paul Celan, ou si je pense à Ingeborg Bachmann, ou Marina Tsvetaeva, ou Sylvia Plath, ou il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Disons que ce sont des écrivains qui compte pour moi un point incroyable, parce qu'il reste des zones d'ombre, et en même temps, la poésie est une forme d'ellipse incroyable, mais qui risque tout. Je pense que dans la poésie, les écrivains, les poètes risquent tout. Alors merci de dire ça, pour moi, ce texte, il aurait pu être publié ailleurs, mais ailleurs, c'était un texte très court, et donc les éditeurs ont dit, mais c'est très court. Et puis, c'est vrai que Stanislas, c'est le premier à qui je l'ai envoyé, ce n'est pas le premier qui l'a monté, mais c'est
Jean-Michel Rabeu qui l'a monté en premier, oui.
Parce que Stanislas disait, moi je cherche des textes qui sont immontables.
Oui. Oui.
Et donc je me suis dit, ce texte est pour lui. Et il a mis le temps, de trouver son actrice.
Cécile Brune. Mais la première actrice, celle de Jean-Michel Rabeu, c'était Claude de Gliard, une magnifique actrice.
Ah, magnifique. Absolument.
Donc vous êtes servie par des femmes de beau tempérament.
Oui, femmes puissantes.
Je disais brûlantes, va assez bien, je trouve, cet adjectif. On revient à la pièce.
Je pense que la femme sur la photographie arrête en moi d'autres images. Je pense que je vais m'arrêter à ces autres images. Je pense qu'écrire, c'est m'arrêter à ces autres images. Je pense que je vais écrire ces images qui m'arrêtent. Je pense que la femme sur la photographie me met aux arrêts. Depuis 15 mois, je pense que j'ai aimé une femme jusque dans la prison où elle nous a enfermés. Je pense que les images se superposent. En avril, j'ai rencontré celle dont je suis devenue l'amoureuse. En mai, j'ai vu la photographie de la femme qui tient la laisse. En septembre, l'amour s'est refermé comme une prison sur moi. Je pense qu'on ne peut pas aimer en prison. Je pense que je n'ai pas aimé ma mère. Je pense que ma mère n'était pas aimable. Je pense que désormais, je ne pourrai aimer qu'une femme qui m'aime. Je pense que la femme sur la photographie me trouble de bien des façons. Je pense que j'écris des choses troubles.
Thank you.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
It's just hard to define because if one does it, I think it's
c'est like dur à définir, surtout quand on fait de l'art soi-même. Mais je crois que c'est tout ce pourquoi on a une passion, pas seulement une passion, mais une vocation. Et on ne peut pas vivre sans se livrer à sa passion. Moi, je ne peux pas vivre sans écrire tous les jours, sans essayer au mieux d'exprimer l'inexprimable. William Burroughs a dit qu'un artiste, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas. On est artiste ou on ne l'est pas.
Ce
n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais moi, je ne peux pas séparer l'art et la vie. Je ne cesse jamais d'être écrivain, même quand je n'écris pas, mon cerveau, mon esprit est toujours en ébullition. Qu'on soit musicien, écrivain, quelle que soit la vocation qu'on s'est choisie, on ne cesse de transformer ce que l'on voit à l'aune de qui l'on est et ce que l'on fait, de notre travail. Donc, vous savez, moi, je n'ai pas un costume d'artiste que j'enfile à heure fixe. Non, ça fait partie de mon ADN.
Claudine Galéa, je ne pouvais pas vous recevoir ce soir sans avoir un petit moment Patti Smith, parce que je sais qu'elle a été très importante pour vous, sa musique, mais aussi ce qu'elle exprime. On l'entend là, ce que ça veut dire être artiste, écrire la vérité, écrire ce qu'on sent. Dans un très beau texte publié en 2011 qui s'appelle « Le corps plein d'un rêve », d'ailleurs vous racontez votre enfance à Marseille et la découverte un été de cette liberté possible, qui correspond avec une idée qui vous est entrée très tôt dans la tête, en fait dans le corps. Vous dites « l'écriture a toujours parlé dans ma tête, elle m'est entrée dans le corps très jeune ». Il y a tout d'un coup eu, c'est quoi? C'est l'évidence, cet été-là, une découverte de la liberté du corps, de la possibilité de vivre une autre vie, celle de Patti Smith aussi.
Bon, en tout cas, il faut toujours s'en remettre et se donner au choc qu'on reçoit. Parce que j'avais 16 ans quand j'ai entendu Patti Smith pour la première fois. Et ça a été un choc. Comme si, à travers sa voix et la façon dont elle interprétait ses chansons, je recevais une part de vérité qui nous était commune. Je ne savais rien. Mais le choc dit quelque chose de soi. Il n'y a pas de hasard, parce que ça, certainement que ça réveille la part encore inconnue de soi, surtout quand on est jeune. J'étais beaucoup trop petite à l'époque pour comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Sauf que un choc, on le reçoit et on en fait quelque chose un jour. Ça, c'est certain. On n'est pas. Moi, je suis poreuse. Enfin, tout le monde est poreux. Mais disons que quand je dis que l'écriture m'est entrée dans le corps, j'ai lu beaucoup quand j'étais. Je savais pas du tout que je serais écrivain. Je n'imaginais absolument pas ça. Je ne pouvais pas me projeter. J'avais trop de. Oh, je trouvais les écrivains trop. Enfin voilà, c'était pas. Je venais pas d'un milieu où on pouvait penser qu'on allait devenir artiste. Mais ce que je lisais m'entrait dans le corps. Oui, quand j'ai lu Bernard Noël, Le Château de Seine, ça m'est rentré dans le corps. Quand j'ai lu Virginia Woolf, ça m'est rentré dans le corps. Mais je m'en apercevais pas. C'était juste que ça faisait son chemin en moi.
Mais on se rend compte d'ailleurs à quel point la nourriture des livres continue à être importante. Dans ce numéro de la revue Parage, qui est absolument formidable, il faut dire, vraiment ça se lit d'un bout à l'autre avec passion, il y a un échange de lettres entre vous et Philippe Mignana, où vous parlez énormément de vos lectures. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que vous êtes un peu en écho l'un et l'autre. Vous, au même moment, vous pensez au même écrivain. Il y a quelque chose comme ça, aussi important que boire et manger, bien entendu. Et surtout, ce qui est étonnant quand on voit votre écriture, c'est que vous aimez les écrivains dans un spectre très large, Colette autant que Falk Richter, par exemple. Bon, c'est bien parce que en fait, ça veut dire que ce qui compte, c'est la beauté d'une écriture, ce qu'elle dit, ce qu'elle transporte.
Oui, effectivement, j'aime des écritures très différentes. Peut-être que c'est Peut-être que ce qui les relie, c'est quand même le corps, encore une fois. Une forme de sensualité. Mais pas simplement la sensualité, parce que quand on a l'image, quand on met le mot sensualité à Colette, on imagine tout de suite, bon, le corps de l'actrice, de la de la cabarettiste, je sais pas si on peut dire ça. Non, c'est au sens où, les mots prennent leurs racines dans les sensations. Et pour moi, entre les émotions et les sensations, il n'y a pas une immense différence. C'est-à-dire qu'une émotion est une sensation. Ça, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment que ça s'inscrit dans le corps, parce que là, il y a une chose qu'on ne peut pas ignorer et qu'on ne peut pas nier, si vous voulez. C'est une forme d'évidence, quoi. Voilà. Vous vivez quelque chose physiquement de tellement fort que ça devient langage à un moment donné. Mais on sait très très bien, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, les écrivains écrivent autour de la sexualité, du sexe plus exactement, parce que c'est l'endroit où le travail le plus passionnant, c'est de réduire au maximum l'écart entre le mot et le corps. Et bon, je pense à quelqu'un comme Guyotat qui a énormément compté pour moi. Il a fait un travail extraordinaire à cet endroit, extraordinaire. Enfin, bon, moi, je ne peux pas ne pas me nourrir du travail des autres. Et puis, bon, en avançant dans l'âge, je me rends compte que les mots dits dans la vie et les phrases que j'ai lues des autres sont égales, c'est-à-dire sont dans un rapport d'égalité, c'est-à-dire que elles me nourrissent tout autant d'expériences, quoi. Un livre, c'est une expérience de vie, tout simplement. Mais on ne sait pas ça quand on est jeune. Mais en réalité, oui, parce que tout ce qu'on va vivre en lisant, tout ce qu'on va ressentir, ça nous fait avancer dans la vie. Ça nous fait comprendre des choses.
Alors il y a une chose aussi qui apparaît dans cette correspondance avec Mignana, mais qu'on ressent en lisant vos textes, Claudine Galéa, c'est la porosité à ce monde dans lequel on est obligé de vivre, ces informations qui nous percutent chaque matin avec une violence, j'allais dire répugnante. C'est vrai qu'il est difficile d'habiter le monde en ce moment. Folke Richter, dont on parlait il y a une seconde, et qui est également avec vous cette année, un des artistes associés au Théâtre National de Strasbourg, écrit lui aussi des textes qu'il met en scène. On va l'écouter avant d'en parler.
Das Theater kann auch Meinungen zum Beispiel zulassen.
Donc le théâtre permet d'aborder ou de montrer des opinions qui ne seraient jamais publiées dans les médias. C'est un cosmos totalement différent, mais mon travail théâtral reprend aussi certaines idées de journalistes. Je lis beaucoup et j'essaie de l'intégrer dans mon travail. Mais mon travail, c'est toujours quelque chose de beaucoup plus concentré, condensé, pour que mes spectateurs soient obligés de s'affronter à certaines choses. Parfois, je les oblige d'avoir une certaine attitude.
Et
il est vrai que je peux le faire de manière plus émotionnelle que ça peut être le cas dans une discussion. Mais le théâtre peut être un endroit aussi où on peut réfléchir aux choses de manière plus complexe, de manière plus sensuelle. Je pense qu'il est surtout très important pour notre société de recommencer à discuter, de se demander ce que nous voulons en tant que société. Pour moi, ce qui fait sens, c'est vraiment toujours combiner d'une part quelque chose de très éloigné de politique avec vraiment l'expérience personnelle.
Au fond, là aussi, il y a une grande fraternité. Vous aussi, vous écrivez des expériences personnelles, mais qui parlent, en fait, qui parlent politique, qui parlent de la politique, de la vie de tous en ce moment.
Mais vous savez, en entendant Folk, je me disais que la différence entre, on va dire, ce qu'on vit au réel, au quotidien, dans les discussions, etc., et ce qu'on trouve au théâtre ou dans un livre, c'est la poétique. C'est ça. C'est ça qui nous permet d'aller plus loin, qui nous permet de, à la fois, contourner et entourer le réel et forer à l'intérieur. C'est la poétique, donc c'est la langue, encore une fois. Alors pour un peintre, ce sera la peinture, pour un musicien, ce sera la musique, pour un architecte, ce sera l'architecture. Mais pour nous, c'est la langue. Et comme on est écrivain, comme c'est la langue, notre travail, on mesure d'autant plus l'écart entre le réel, la vie quotidienne, et puis l'endroit du livre, l'endroit littéraire, quoi. Et cet endroit littéraire, c'est simplement de pouvoir, avec les mots, s'arrêter sur des événements, on va dire, comme au sens de l'événement, comme l'entend Annie Ernaux, par exemple, s'arrêter sur des événements et y revenir. Parce que dans la vie, on n'a pas le temps de s'arrêter sur les événements. Ils passent. Ils nous passent à travers. Et s'arrêter, c'est y retourner et aller déplier les sens, les multiples sens qui sont inscrits dans parfois des micro-événements. Il y a beaucoup plus à voir et à dire que ce qu'on croit. C'est-à-dire, c'est le visible, c'est quelque chose qui est en 4D, quoi. Je ne sais pas comment dire.
C'est absolument formidable de vous écouter, Claudine Galéa. On arrive au bout de l'émission. C'est un déchirement de vous laisser partir. J'aurais bien continué encore un peu, quelques heures. Mais au moins, il reste les choses à lire. Donc, ne ratez pas cette revue Parage numéro 9 qui est consacrée à Claudine Galéa. Allez au TNS si vous êtes dans le coin pour voir Au bord qui se joue. Jusqu'au 29 juin, il y aura une reprise en avril et bientôt peut-être à la Colline à Paris. Aux éditions Espace 34, publiées Au bord et la dernière pièce, Un sentiment de vie. Et à la rentrée, au Théâtre de la Bastille, mise en scène de Jean-Michel Rabeu et un film de Mathieu Amalric, on n'a pas eu le temps d'en parler, Serre-moi fort, à partir d'un texte de vous, Claudine Galéa, Je reviens de loin, et ça sort à l'automne. Et voilà, c'est fini, je suis en retard de 3 secondes. Merci à vous.
Merci à vous.